On va passer au sujet prochain, qui est l'autoconsommation collective, qui va être présenté par Sandrine Clarisse, du réseau Énergie Citoyenne Locale et Renouvelable. Ce réseau, il accompagne les citoyens et les collectivités d'Occitanie qui se mobilisent pour reprendre en main les enjeux et les projets d'énergie.
Bonjour à tous, je suis Sandrine, animatrice au sein de l'association Éclair. Donc, comme ça a été présenté, c'est un réseau d'adhérents. Donc on a une variété d'adhérents, ça peut être des collectifs d'habitants ou des collectivités. Et ce qui les rassemble, c'est vraiment les questions de réappropriation de l'énergie et se réapproprier aussi les projets de production. Donc moi, je vais vous parler d'autoconsommation collective. Donc je vais vous présenter un petit peu le schéma après. N'ayez pas peur, je vais faire juste quelques rappels avant. Juste vous dire que l'autoconsommation collective, c'est déjà un mode de valorisation de l'électricité à avoir en tête. Et donc avant, surtout ce qui se passait quand on installait une unité de production, 100% de l'énergie était remise sur le réseau. On la vendait à un fournisseur notamment. Après, c'est développer tout ce qui est un peu l'autoconsommation individuelle. C'est-à-dire qu'en tant que particulier, vous pouviez mettre du coup un panneau photovoltaïque sur votre toiture et consommer une partie de cette électricité. Donc, c'est-à-dire qu'une petite subtilité peut-être, si vous êtes propriétaire d'une maison, vous allez produire de l'électricité, vous allez consommer cette électricité si au même moment qu'elle est produite, vous avez des besoins de consommation. Si jamais vous produisez plus, c'est-à-dire que l'excédent va être envoyé sur le réseau, et si vous ne produisez pas assez, vous allez soutirer du coup de l'électricité sur le réseau pour répondre à votre besoin simultané. L'autoconsommation collective, qu'est-ce que ça apporte du coup ? C'est le cas de l'autoconsommation du coup individuelle. Au lieu de revendre votre surplus sur le réseau, vous allez pouvoir la vendre du coup à vos voisins. Donc c'est un petit peu la définition qu'on voit là en bas de la diapo. C'est consommer à plusieurs l'électricité produite par un ou plusieurs moyens de production locaux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans une boucle d'autoconsommation collective, une opération un peu d'autoconsommation collective? Vous allez avoir trois acteurs principaux. Donc, sur le schéma, c'est la partie en vert, vous allez avoir les producteurs, la partie à droite, les consommateurs en bleu, et au-dessus, la personne morale organisatrice. Je vais vous expliquer un petit peu chacun des rôles. Donc, cette boucle, elle est délimitée dans un périmètre de 2 km qui peut être étendu en zone faiblement peuplée à 20 km. Et vous êtes limité en termes d'installation. C'est une installation qui peut être de 3 mégawatts. Et quelle filière peut produire de l'électricité? Donc toutes les filières, que ce soit de l'hydroélectricité, on en parlait au début, que ce soit du photovoltaïque, au sol, en toiture, en ombrière, et aussi des éoliennes. Mais il faut que voilà, cette installation soit d'une puissance inférieure à 3 mégawatts. Le producteur, il aura le choix, en fonction de ce qui va être installé, de consommer une partie de l'électricité, ce qu'on appelle en autoconsommation individuelle, et du coup vendre le surplus à des consommateurs, et s'il y a encore du surplus, le remettre sur le réseau. Le consommateur, pour pouvoir faire partie d'une boucle d'autoconsommation, il faut avoir un compteur Linky, un compteur du coup communicant, et une spécificité, c'est que le consommateur, il aura deux factures. Sa facture avec le producteur local, de la boucle dans laquelle il fait partie, et sa facture avec son fournisseur qu'il avait avant de faire partie de la boucle. Parce que si c'est des panneaux photovoltaïques qui sont installés dans la boucle, il y a des moments où il n'y aura pas de soleil, ou pendant la nuit, il n'y aura pas d'électricité qui va être produite, mais des besoins pour le consommateur, donc besoin d'avoir un autre contrat. Et la troisième acteur, qui est la personne morale organisatrice, c'est la personne du coup qui est en relation avec Enedis et qui va notamment transmettre tout ce qui va être clé de répartition. Parce que dans votre boucle, il va y avoir beaucoup de discussions entre les producteurs et les consommateurs. Il va savoir qui en premier va bénéficier de l'électricité. Et donc, ce sera des choix qui vont être pris. Ça va vraiment être un des enjeux de cette boucle, c'est prendre ces décisions ensemble. Et donc, du coup, il y a des clés de répartition qui sont mises en place et c'est ces clés-là qui sont transmises à Enedis. Les intérêts et points de vigilance que je voulais vous donner, en tout cas, sur cette opération. Donc, un atout, c'est que ça reste assez prometteur. Ça s'est développé aussi pas mal ces dernières années parce que ça vous permet d'avoir de l'électricité qui est issue de sources renouvelables et locales. Donc, c'est toujours dans l'enjeu de décarbonation. Ça vous permet de moins subir les fluctuations du marché comme on a pu connaître ces derniers temps. Pour le consommateur, ça vous permet de stabiliser voire diminuer votre facture d'électricité. C'est aussi un bon moyen de favoriser la coopération locale entre producteurs et consommateurs. Ça vous permet de sensibiliser, parler aussi de sobriété et relier tout ce qui est production d'électricité et consommation. Savoir que vraiment se pousser à consommer quand l'électricité locale est produite, quand il y a du soleil, si c'est des installations solaires qui sont installées. Quelques points de vigilance. C'est des opérations qui sont très complexes à mettre en place. Ça reste encore assez embryonnaire. Il y a plusieurs expériences, il y en a une centaine. Mais chaque projet est assez particulier. Des gros enjeux, qui soient le dimensionnement de la boucle. Comme vous l'avez vu, si vous avez bien mémoire le schéma tout à l'heure, entre consommateurs, producteurs, L'enjeu, en fait, c'est d'envoyer le moins de surplus sur le réseau parce que vous avez des différentiels de tarifs qui font que c'est pas intéressant. Donc, il va vraiment avoir tout un enjeu de dimensionnement entre équilibrer votre taux de production, la quantité qui va être produite et la quantité qui va être consommée pour qu'il y ait moins d'électricité qui aille du coup sur le réseau. Il y a trouver l'équilibre économique, donc trouver un prix qui permette de satisfaire en même temps le producteur, celui qui va réaliser les investissements, qui va emprunter, donc qui va souhaiter rembourser en tout cas cet investissement-là, et le consommateur qui va intégrer cette boucle. Pour lui, il faut aussi qu'il y trouve un intérêt un petit peu financier, que ce soit pas forcément plus élevé que ce qu'il peut trouver sur le marché. Donc, c'est vraiment tous ces équilibres et ces discussions qui sont vraiment un nœud fort et toutes ces discussions qui sont prises au sein de ces boucles. Et enfin, le dernier point, c'était juste technique, bien rappeler que pour faire partie d'une boucle de consommation, il faut avoir un compteur communicant. Et après, je voulais vous proposer 3 retours d'expérience. Il y a vraiment plusieurs schémas, c'est de vous montrer différents modèles assez variés. Donc, le premier que je voulais vous montrer, c'était celui de ce qu'on peut appeler le modèle de l'autoconsommation directe, où là, ça va être un parc photovoltaïque au sol, un petit parc de 250 kW crête qui a été installé. Donc, du coup, en termes de producteurs, il y a un site. Dans les consommateurs, il y aura 8 consommateurs avec des profils très différents, des bâtiments publics, des particuliers et aussi un supermarché. Du coup, là, sur les différentes personnes, vous avez du coup le producteur et la personne morale organisatrice. C'est la même personne, c'est du coup le développeur qui est Enercop. Et du coup, les décisions qui ont été prises, c'est qu'en priorité, l'électricité va être transmise ou va être achetée par les bâtiments publics et les particuliers et en dernier temps, par le plus gros consommateur qui est le supermarché. Voilà, ça, c'est des discussions qui ont été prises. Et en termes de taux d'autoconsommation, on est autour de 99% et le 1% restant est valorisé sur le réseau, mais aussi à un fonds qui s'appelle Énergie Solidaire. Après, on a un autre modèle qui va être l'autoconsommation un peu hybride, où là, vous allez avoir des panneaux photovoltaïques qui vont être installés sur des toitures. Donc, en premier temps, l'électricité qui va être produite va bénéficier du coup au bâtiment, donc en autoconsommation individuelle. Le surplus va être proposé du coup à une boucle de consommateurs, là qui est identifiée autour de 150 consommateurs avec en particulier des habitants. Puissance installée, on est sur une puissance un peu supérieure de 500 kW crête. Et là, la spécificité, pardon, c'est qu'il n'y a pas qu'une boucle, mais 2 boucles du coup qui ont été mises en place. Et ce qui est intéressant dans ce projet-là, donc là qui se passe à Rennes, et qui a été porté par un collectif citoyen, c'est qu'ils ont mis en place toute une réflexion sur la tarification avec 3 modes de tarification. Une tarification normale, une tarification soutien, qui est un prix un peu plus élevé d'achat d'électricité, pour permettre de débloquer des tarifs éco pour un public le plus précaire, pour vraiment que ce soit une boucle qui soit inclusive en termes d'énergie et de partage de l'électricité. Et là, pour vous dire aussi sur le montage, si vous avez bien le schéma en tête, sur les 3 acteurs clés, qui sont la personne morale organisatrice, le producteur et les consommateurs, sur l'exemple précédent, le producteur et la personne morale organisatrice étaient la même structure. Et là, c'est 2 structures distinctes. Une société d'investissement et une association qui fait les remontées avec Enedis sur les clés de répartition. Et le dernier exemple, qu'on appelle autoconsommation patrimoniale. Donc là, la spécificité, c'est que la personne qui installe, qui produit l'électricité, qui est personne morale organisatrice et qui est consommateur, c'est la même personne, c'est la collectivité. Là, dans cet exemple-là, c'est une commune. Donc dans les Pyrénées-Orientales, à Tesa, où ils ont du coup un site de production, 8 bâtiments publics qui consomment, et la puissance qui a été installée, c'était du 66 kW crête. Donc là, on est dans une autre logique. Sur le premier exemple et le deuxième exemple, on est sur une logique un peu de tarification, facture, comme avec un fournisseur. Et là, sur ce dernier exemple, on est plus sur une logique d'économie, économie de facture. Voilà, je pense que j'espère
Merci
que j'ai
beaucoup.
Tenu mes 10 minutes.
Oui, très bien. On va pouvoir passer à la phase de questions.
Oui, bonjour, Serge Picard de la commune de Rieux. J'avais cru comprendre aussi qu'il y avait une autre condition, c'est que pour faire partie de la même boucle, il fallait être raccordé derrière le même transfo.
Il fallait être raccordé derrière le même
sur
transfo
sur le même transformateur électrique, oui.
Ça a été vrai, ça n'est
pas... Voilà, réponse est Enedis.
Bonjour à tout le monde, Loïc Gaujard, maire de Martre-Tolosane, vice-président au pays, aussi à la culture. 2 questions dans 2 champs différents sur la question de l'autoconsommation. 1, est-ce que ce modèle-là est accessible aux collectivités, c'est-à-dire que sur la commune de Martre, on a une régie. Je sais que sur Caser, la même réflexion qui est portée. Une régie d'électricité, et on réfléchit pour justement être aussi producteur d'énergie via le développement de centrales photovoltaïques, dimensionnées à l'échelle de la consommation de la commune. Est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent à la fois de produire cette énergie et de la revendre directement à nos consommateurs, à nos clients, donc qui sont les habitants de la commune. essentiellement, et des entreprises. Ça, voilà, sur ce système-là, je dirais une collectivité qui produit et qui revend en fait à ses habitants. Est-ce que c'est possible de le faire directement sans passer par une vente sur le marché et après on rachète l'électricité sur le prix du marché qu'on revend, sur un prix de cession et qu'on revend après à nos consommateurs, d'éviter le marché en fait. Et deuxième question, sur des projets peut-être plus petits, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est opportun? Par exemple, un propriétaire a 3 maisons à proximité l'une des autres, met des panneaux photovoltaïques sur la toiture d'une de ces maisons. Et est-ce qu'il est possible de faire bénéficier en autoconsommation les 3 bâtis qui lui appartiennent ou qui appartiennent, par exemple, à une famille et qui sont en location derrière? Voilà, c'est des schémas qu'on peut retrouver des fois dans nos territoires. Et, un terrain qui est divisé, qui est transmis aux enfants, par exemple, et... Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui est possible sur un petit projet, en fait? On est juste sur de la consommation domestique.
Alors, je vais commencer peut-être un début de réponse. Et si jamais donc la personne qui représente Enedis, ou j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres développeurs dans la salle ou Enercop, si jamais vous voulez compléter. Par rapport à la première question, c'était est-ce qu'une collectivité pouvait du coup installer des panneaux, les permettre sur ses bâtiments et la proposer à des habitants et facturer aux habitants, c'était ça? Via la régie. Donc c'est la régie qui porterait l'investissement. Donc la régie, en tout cas, oui, peut installer et produire de l'électricité. Je pense qu'elle peut aussi facturer. Donc je pense qu'elle pourrait aussi avoir le rôle de PMO. C'est pour ça que je vous posais la question si c'était vous, la commune en tant que telle, ou la régie. Parce que la commune, la collectivité est limitée, peut pas facturer. Donc du coup, ouais.
L'idée, en fait, c'est qu'il y a une société qui est montée qui permet de produire l'électricité, comme on voit souvent sur les productions d'énergie renouvelable. Mais cette société, finalement, derrière, c'est la régie et la commune qui a derrière et éventuellement un développeur de projet. Et cette société qui puisse revendre directement l'électricité à la régie communale, qui elle le vend au consommateur, sans avoir à passer par une vente via la CRE et après qu'on rachète cette électricité sur le prix de cession. Et quand on voit les fluctuations du marché actuellement, ça permettrait, entre guillemets, d'avoir le coût de production de l'énergie, finalement, il est assez stable. Peut varier un peu, mais globalement, il est assez stable sur le coût réel de production. De limiter les hausses et du coup, de ne pas mettre en difficulté entre l'achat au prix du marché et le revente au tarif réglementé.
C'est le principe d'intérêt même, c'est-à-dire de valoriser directement le kilowattheure localement en s'affranchissant du marché. Dans votre problématique, le producteur, quel qu'il soit, peut, même si c'est une collectivité, peut vendre directement à des consommateurs locaux. Régie ou pas régie, c'est pas le problème en fait. Mais c'est le producteur peut, avec un ou plusieurs moyens de production, vendre à plusieurs consommateurs directement. Et vous avez raison, c'est le principe même, c'est-à-dire que comme on connaît le coût de production, on peut proposer un coût du kilowattheure sur la durée de vie, long terme, stable, avec une petite indexation, et ce qui va permettre de maîtriser une partie du coût et d'avoir une visibilité surtout sur les budgets. C'est tout l'intérêt. Mais c'est faisable. Alors après, la question, c'est que tout ça, il faut l'organiser. Donc il faut faire des études. C'est tout ce qu'expliquait... Sandrine, pour bien dimensionner d'un point de vue technique, juridique, économique, et ensuite s'assurer de la bonne exploitation, parce que derrière, il faut exploiter. Donc, travailler avec Enedis sur la récupération des données, puisque les données, elles sont certifiées par Enedis, ouais, toujours, qui va permettre de, suivant les clés de répartition, facturer le consommateur final.
Ce sera qu'une partie de la consommation des consommateurs. Ils auront toujours un autre contrat avec un fournisseur qui sera lié, du coup, aux fluctuations du marché.
Si je peux me permettre de préciser, en fait, vous êtes dans un cas particulier qui est lié à la géographie. C'est que, en fait, sur la Martre-Tolosane et Caser, Enedis n'intervient pas. Le réseau, si vous voulez, si on revient à la base, le réseau de distribution publique d'électricité appartient aux collectivités. Le représentant des collectivités qui représente le propriétaire des réseaux, c'est le SDEG, pour la Haute-Garonne. Nous, on en est concessionnaire. On est concessionnaire sur 95%, on va dire, du territoire. Sauf 3 communes en Haute-Garonne qui sont Martre-Tolosane, Caser et Miramont. Et en fait, dans le cas que vous prenez, le principe c'est que la régie occuperait la position d'Enedis dans le schéma que vous avez présenté. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent le réseau, c'est eux qui gèrent les compteurs et donc ils seront amenés à gérer les flux de données pour pouvoir faire fonctionner l'opération. C'est-à-dire, imaginez dans la vie courante d'une opération d'autoconsommation collective, à un pas d'une demi-heure, hein, c'est ce qu'enregistre le compteur Linky, on va enregistrer ce que consomme le client, ce que produit le producteur, donc chaque client, ce que le client va prendre, la quote-part qu'il va prendre sur le producteur de l'opération, ce qu'il va prendre sur le réseau via son fournisseur, Et en fait, nous, on établit toutes ces données-là et on les fournit à la personne morale organisatrice pour qu'il puisse gérer les flux financiers liés, en fait, aux clés de répartition dont vous parliez. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais le principe, c'est ça. Et en fait, sur vos territoires, c'est la régie qui doit faire ça. Du coup, Enedis n'a plus rien à voir là-dedans. Et la régie assure ce rôle-là, assure la gestion des compteurs, ainsi de suite. Voilà. Après, si vous voulez, ce qu'il faut avoir à l'esprit, si je peux me permettre de rajouter, si vous regardez le schéma, au milieu, vous avez bien les compteurs et le réseau. Et en fait, Enedis intervient dans l'opération pour fournir donc toutes les données, ça je viens de vous préciser, mais aussi on garantit à tous les clients l'accès au réseau, l'électricité et la puissance dont ils ont besoin, quelle que soit la production qu'il y a en face de l'opérateur, quel que soit le moment de la journée, de la nuit, ainsi de suite. C'est pour ça qu'en fait, une opération d'intoxication collective passe quand même par le réseau. Et même s'il y a les flux passent pas par les tarifs de marché, une opération d'intoxication collective va payer une partie du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Il y a un tarif spécifique, mais elle paye quand même une partie de ce tarif-là pour permettre l'entretien du réseau qu'elles utilisent quand même.
Pour compléter, donc Jacques Doumer, et là j'interviens effectivement avec la casquette Rayon Vert, qui est un collectif citoyen créé sur le territoire. Alors en deux mots, donc créé donc avec l'appui de la région, dans un état d'esprit, c'est-à-dire dans une démarche préqualifiée de politique, c'est-à-dire qu'en fait, de dire en fait aujourd'hui par rapport aux enjeux, il est important effectivement que les citoyens soient associés à cette démarche et soient même effectivement acteurs. Ne pas attendre forcément que les solutions viennent d'ailleurs. Là, c'était offrir aux citoyens les moyens effectivement d'être acteurs de leur développement et de jouer le rôle effectivement d'un opérateur sur le territoire. Alors pour l'instant, Rayon Vert donc a été créé au départ pour intervenir sur la vallée de l'Ariège. Donc aujourd'hui, a une compétence pour intervenir à l'échelle de l'ensemble sur le territoire de l'ensemble du pays du Sud Toulousain. Donc une des premières actions est en cours sur la commune de La Gardelle-sur-Lèze, dont le maire est à côté. La démarche, donc, c'est à la fois, donc, impliquer les citoyens dans le système, c'est-à-dire que je prends des parts et j'ai un rendement tous les ans qui correspond effectivement aux marges que l'on peut dégager sur le système financier. Et la deuxième, c'était aussi de pallier un petit peu les carences, en fait. Soit les collectivités locales pouvaient faire elles-mêmes ou avaient les moyens de le faire, ou voulaient s'impliquer, ou alors pouvaient confier effectivement cette mission à des opérateurs locaux, en sachant que Rayon Vert, donc aujourd'hui, est géré donc par des techniciens par ailleurs, mais qui ont des missions. Mais sinon, effectivement, les gestionnaires sont aujourd'hui une structure coopérative entièrement bénévole. C'est une autre offre, c'est un autre système. Et quand on voit arriver sur le territoire toutes les des grandes multinationales et autres, on se dit c'est quand même un peu dommage effectivement que les citoyens ne soient pas directement associés à ces démarches. Que ça soit aujourd'hui des capitaux venus d'ailleurs qui ne vont pas forcément défendre les intérêts du territoire. Je crois que c'est bien ce que tu as dit, Sandrine. Effectivement, ça, c'est une démarche effectivement qui est aujourd'hui importante, qui est compliquée à mettre en place parce que les réglementations ont changé. Donc là aussi, nous aussi, on avance petit à petit, avec l'appui d'Enercop aussi, qu'il faut qu'on arrive à bâtir ensemble. Mais bon, là, je crois que c'est une démarche vraiment qui peut être intéressante pour un certain nombre de collectivités locales. Comment je peux associer la population de mon village à une telle démarche.
Et peut-être pour rebondir ou compléter, c'est vrai que vous, aujourd'hui, Rayon Vert, du coup, le collectif citoyen qui, du coup, collecte l'épargne auprès des particuliers, des structures locales, et qui l'investissent pour installer des toitures photovoltaïques. Aujourd'hui, le modèle, c'est la revente de cette énergie. Mais supposons que vous pouvez toujours être l'acteur local aussi, qui peut être producteur dans une boucle d'autoconsommation collective, et aussi être PMO, personne morale organisatrice. Après, comme il y a aussi une régie locale, il y a aussi des questions à se poser en termes de complémentarité sur ce type d'opération. Par exemple, je pense que dans le Carmozin, il y a le collectif qui s'appelle COP de Sceaux qui réfléchit aussi avec la régie locale pour voir quelle place chacun des acteurs peut prendre dans ce genre de boucle pour proposer une réponse cohérente et adaptée au territoire.
Y a-t-il d'autres questions ?
Si je peux avoir une réponse sur la deuxième question que j'avais posée sur les micro-nano-projets, voilà, mini-projets sur trois habitations, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui existent ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça ne l'est pas, par exemple ?
Du coup, sans avoir les études, en fait, il y aura toute une phase d'études. Il faut regarder la puissance que vous allez installer, ce qu'elle va pouvoir produire. En contrepartie, regarder les besoins des consommateurs qui sont à proximité, donc soit à 2 km, soit plus loin, en fonction de si vous pouvez étendre avec le système de dérogation. Et après, c'est voir surtout à quel prix vous pourrez le proposer et si c'est un prix qui est intéressant pour le stabiliser. Donc là, je peux pas vous répondre Spécifiquement, la toiture qu'on a vue minimum qui a été mise dans l'opération patrimoniale, où là où c'était la commune qui était à la fois productrice, PMO et consommatrice, c'était un 66 kW de crête. Mais à partir du moment où vous souhaitez plutôt étendre à des particuliers, moi, ce que j'ai en tête, la puissance minimum à installer, ce serait du 100 kW crête. Mais il faudrait aussi que vous trouviez les consommateurs en face dans la zone qui puissent faire asseoir du coup le modèle économique. Donc, difficile de vous répondre là. Moi, aujourd'hui, j'ai pas plus petit que ces exemples que du 66 kW crête, mais qui est sur du patrimonial. Sinon, quand on est sur une forme d'autoconsommation individuelle et après revente aux voisins, on est sur des montants un peu de volume installé un peu supérieur. Donc, ça mérite de faire quelques études ou de regarder un petit peu. Mais du 66 kW crête, ça va pas être une maison individuelle, hein. Sur une maison individuelle, ça va plutôt être du 9 kW crête, entre du 9 ou du 6. Et après, sur des bâtiments type public, on peut arriver sur du 36.
Il faut compter environ, pour 1 watt crête, 4,5 mètres carrés en surface. Donc, oui, 1 kW crête. Donc, 4,5 pour avoir l'équivalent en mètres carrés. Monsieur Lala, syndicat d'énergie de la Haute-Garonne.
En tout cas, si c'est une maison d'habitation, souvent, vous n'allez pas pouvoir installer plus que du 9 kW crête. Pas d'intérêt de faire l'autoconsommation collective, plutôt de faire l'autoconsommation individuelle au vu de la puissance installée.
On va prendre une dernière question.
Bonjour à tous, Jean Langry, j'interviens au nom du CODEV, donc le comité de développement. Donc j'interviens là en tant que citoyen. Je souhaite bon courage aux élus, parce que ça fait combien, 5 ans qu'on dit qu'on révise le SCOT. Tous les ans, il y a une nouvelle loi. Un coup, c'est la loi énergie climat, un coup, c'est le ZAN, un coup, c'est... Enfin, je ne sais pas comment vous allez faire. Je pense même qu'il y a... Enfin, voilà, ça va être... Donc, bon courage. J'interviens là en tant que citoyen pour vraiment, vraiment appuyer sur cette partie. Dans Éclair, le C, c'est citoyen. Et au CODEV, on a bossé sur votre feuille de route, vous, les élus, le PASS, le plan d'aménagement stratégique. On a le souhait au CODEV de vous transmettre la vision d'un avenir électrique, d'énergie, et pas seulement électrique d'ailleurs, plus citoyen, où on inclut plus le citoyen, où l'énergie ne doit pas servir à l'énergie et à plus d'énergie, mais doit servir à la collectivité, doit servir et rendre des services publics. Par exemple, oui à la méthanisation, si elle a un rôle et qu'elle rend service. Oui à, je ne sais pas quoi, le stockage d'hydrogène, si c'est nécessaire et qu'il y a un service rendu. Non à l'énergie si c'est pour engraisser des majors ou des multinationales.
Merci beaucoup pour ces échanges éclairants.